Bonsoir et bienvenue dans ce groupe Prepare for Change, PFC pour les intimes, du dimanche 12 janvier 2014. Voilà, nous sommes un petit groupe ici à Romainville. Nous venons de méditer, nous avons fait silence pendant 15 minutes et nous sommes à présent bien centré, nous allons nous présenter et puis nous pourrons intervenir, partager, donner des nouvelles, donner des infos, donner notre ressenti sur tout ce qui concerne préparez-vous au changement. Voilà, moi je suis Avif Edida, je vous accueille dans mon lieu. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient proches ou lointains, jusque dans les îles Canaries. Hein, je sais qu'il y a des fidèles auditeurs là-bas. Et puis, je suis disposé à mettre mon énergie, mon lieu et puis mon temps pour faire grandir ce mouvement de conscience à travers le monde.
Je suis Christine. J'ai participé également au groupe Prepare for Change. J'ai créé mon groupe pour éventuellement accueillir chez moi, dans le cas où une occasion se présenterait, à Paris. Et je suis attentivement à l'évolution de ce mouvement, de façon à être prête et à aider à la préparation.
Alors, bonsoir, moi c'est Florian, je viens depuis déjà quelque temps aux réunions PFC. Alors, c'est vrai que PFC, à chaque fois, chaque jour, j'essaie de m'imaginer l'événement en fonction de l'endroit où je suis. Et alors j'essaye de, on va dire, visualiser comment les choses s'articuleraient. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai vraiment une vision différente. Et c'est vrai que, alors oui, c'est vrai que dans les messages de Cobra, bon, il a été dit que forcément notre zone de confort disparaîtra. Mais ça sera aussi une nouvelle façon de redécouvrir le monde qu'on a autour de soi. Puisqu'en fait, la population, véritablement, je me suis dit qu'en fait, on va vraiment retrouver contact avec les voisins, par exemple. Et parce que, bon, je sais pas, moi, vous, bon, on peut avoir des différentes sortes de types de contacts avec nos voisins. Et là, du coup, peut-être qu'un événement, ça permettrait vraiment de rapprocher les gens avec la nécessité. Et c'est vraiment une opportunité de reconstruire une communauté locale. C'est-à-dire, on peut dire qu'on est, il n'y a pas de communauté, quoi. On est français, on a un travail. Tandis que là, avec l'événement, tout d'un coup, tout le monde est à pied d'égalité sur la même circonstance. Et là, véritablement, c'est vrai que les archanges, dans les messages d'archanges, ils disent que c'est vrai qu'il va y avoir des regroupements d'âmes, en fait. Et en fait, comme on n'a plus toutes les règles de société qui disparaissent peu à peu, on redécouvre une façon de créer du lien, en fait. Alors, le lien, c'est soit la famille, les amis, le travail, et là, ça va être véritablement en fonction de comment on vit l'événement. Et là, on se regroupera en fonction de comment on vit l'événement. Moi, je vois ça comme ça. Et on le fait déjà dans la vraie vie, mais là, c'est vraiment quelque chose de... un agglutinement de... Je sais pas dans la nature comment on pourrait expliquer ça. Euh, c'est-à-dire un regroupement de groupes qui sont, on va dire, en harmonie à l'intérieur du groupe, et la dualité, véritablement, pourrait disparaître, puisqu'en fait, tout le monde a les mêmes bases, en fait. Enfin, voilà, c'est une petite perception de l'événement, et on va dire assez... je sais pas, positif ou négatif, enfin, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une façon, une vision de voir, quoi. Et voilà. Alors, je sais pas si c'est une façon de se préparer, mais je le voyais comme ça. Voilà, ça m'est sorti comme ça. Ça, je viens d'improviser, mais c'est vrai que j'y pense des fois. Voilà.
Bonsoir tout le monde, Nicolas, fidèle au poste. Pour l'instant, j'ai rien à signaler, j'ai pas d'idée, donc je vais faire tourner le micro.
Alors, on peut donner quelques nouvelles. Pour ma part, suite à ce que Florian vient de dire, j'imagine bien. D'utiliser ce mouvement pour passer en effet de la dualité à la non-dualité. Ou, pour ne pas fantasmer ou pour ne pas imaginer que dans un monde duel on puisse installer la non-dualité, parce que dès qu'il y a le jour et la nuit, on a des opposés, mais disons qu'il y aura peut-être plus d'harmonie, moins d'opposés qu'actuellement, et surtout, après cet événement, et après que la population soit sortie de la zone de marasme, qui dit tout est bouleversé, et ce qui est reconstruit, c'est du positif. Alors il y a fort à parier qu'une bonne partie des conditionnements qui ont été implantés dans nos psychés depuis plus de 25 000 ans, progressivement pourra s'effacer, parce que déjà on va éliminer une bonne partie du stress de la population, qui a une fatigue énorme à se lever très tôt, à prendre des transports, ou même à travailler dans les champs pour gagner... quelques euros, quelques dollars, même s'ils sont loin de toute civilisation. Ça peut être un travail harassant qui ne laisse pas le temps de s'occuper de son développement spirituel, de sa connexion aux autres. Ouais, dans un monde plus communautaire, où il y a plus le sens de l'interrelation des êtres entre eux, où il y a aussi moins de demandes de travail 8 heures par jour, 12 heures par jour, voire plus, pour contribuer à ce monde et en vérité alimenter des forces qui ne sont pas positives pour l'humanité, qu'on peut appeler la cabale. Alors, les gens auront plus de temps à s'intéresser à leur nature, plus de temps à se rappeler qu'on est interconnecté, que c'est pas le monde qui change, c'est ma perception du monde qui change. Et donc, dès que j'ai du temps pour m'introspecter, pour me calmer, comme on vient de faire dans la méditation, calmer le mental, calmer les pensées, calmer ce que j'appelle le délire intérieur, hein, parfois c'est un tourbillon à l'intérieur du cerveau. Parfois c'est une machine à démolir aussi qui est dans le cerveau, qui va me dire t'es pas digne d'amour, t'es pas à la hauteur, t'es pas valable, travaille plus, consomme plus, voilà des choses aberrantes. Donc notre mental... on a tout à gagner à ce qu'il se calme. En même temps, nous ne luttons pas contre le mental, parce qu'il est tout à fait possible que le mental soit à notre service. Et donc, l'événement pourra nous donner une direction pour aller dans, vers un monde de coopération plutôt que de concurrence, de solidarité où mes compétences seront mises au service de, d'autres personnes qui, elles, ont des compétences différentes, qui pourront être mises à mon service. Et donc, chacun apportera sa pierre à l'édifice. Et ça ne sera pas un effort, ça ne sera pas travailler au sens latin qui veut dire torturer, mais œuvrer ensemble, qui est construire, collaborer ensemble à un nouveau monde. Alors, je ne sais pas si ça va nous mener à la quatrième ou cinquième dimension immédiatement, ou s'il y aura quelques années d'évolution de conscience supplémentaire pour sortir plus complètement de la pensée duelle. Mais déjà, le sentiment de fraternité, qui est vraiment la pierre de base de la non-dualité, le fait que nous sommes tous un, et donc égaux, hein, nous sommes égaux, mais pas avec un O, hein, avec A-U-X, nous sommes tous égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas quelqu'un de plus valable de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre, et donc c'est plus facile de dire que nous formons une fraternité, hein, une filialité aussi, on peut dire. Et nous sommes tous reliés à la source, et donc dans ce sens-là, nous sommes tous égaux aussi. Donc, partant de ce sentiment d'égalité, il ne peut plus y avoir de jugement, parce que le jugement vient seulement du fait que je suis plus valable que toi ou moins valable que toi. Hein. Et si je suis égal à toi, ben, il n'y a plus de jugement. Quand il n'y a plus de jugement, c'est facile d'accueillir l'autre, puisque je ne le juge pas. C'est facile d'aimer l'autre, et c'est facile que l'autre m'aime, parce que qu'est-ce qui empêche les effusions d'amour entre nous? C'est la peur d'être jugé, ou le fait que moi je juge. Enfin, je ne peux pas juger et aimer, puisque c'est vraiment les opposés, pratiquement. Donc aimer, c'est accueillir, et dans cette fraternité, dans cette prospérité aussi qui se profile, alors l'amour pourra circuler naturellement, je dirais. On se rappelle que quand on se détend un petit peu, c'est facile de retrouver de l'estime pour n'importe qui, pour son voisin, hein, comme tu disais, Florian. Moi, j'ai des voisins avec lesquels le courant passe mal. Je dirais même que c'est eux qui ne désirent pas que le courant passe bien, parce que moi je suis complètement ouvert à des relations fraternelles avec eux, mais je ne peux pas non plus les forcer à ça, il faut que ça vienne d'eux. Mais en même temps, j'essaie de les regarder avec amour, et puis d'envoyer des pensées d'amour, et de voir que quand ils manifestent de la peur, finalement, qu'est-ce que c'est que la peur? C'est un appel à l'amour. Hein, c'est quand j'ai peur, ça veut dire que je ne suis pas connecté à mon cœur qui peut aimer. Et donc, mon cœur a besoin d'apprendre à aimer ou de se rappeler qu'il aime. Donc, quelqu'un qui a peur, il a envie de se rappeler de ce que c'est que l'amour. Il m'envoie un message d'appel. Rappelle-moi ce que c'est que l'amour. La peur, c'est un appel déguisé à se rappeler de l'amour. Parce qu'il paraît qu'il n'y a que deux opposés dans le monde, c'est amour et peur. Mais au niveau énergétique, au niveau émotionnel, peur, il y a plein de dérivés de la peur. Tout ce qui est contraction, c'est de la peur, que ce soit l'angoisse, la frustration, l'impatience, ça relève de la peur au final, quand on l'analyse, quand on va profondément. Et tout ce qui est détendu et ample et de nature à s'étendre, ça filie à l'amour, comme la patience, le fait d'être en compassion, le fait d'être dans la générosité, tout ça c'est ample, c'est pas étriqué. Hein. Donc on peut distinguer vraiment deux grandes familles, c'est l'amour et la peur, dans ce qui est émotionnel. Hein.
Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a des émotions qui ont des contraires et d'autres qui n'en ont pas. que par exemple amour et peur bon, seraient donc contraires, mais qu'il y a ce qu'on appelle la vraie joie, une joie dans une forme de paix, de joie pacifique, qui n'a pas d'opposé. Et je suppose qu'il doit aussi exister une forme d'amour qui n'a pas d'opposé. Donc, bon, moi personnellement, j'ai un peu du mal à bien saisir tout ça. J'ai bon espoir d'y arriver un jour, mais si tu peux préciser un petit peu.
Oui, c'est une excellente question, parce qu'en fait, ça dépend du niveau dans lequel on parle. Dans un monde duel où nous vivons les opposés, ne serait-ce que jour et nuit, hein, c'est pas le jour tout le temps, c'est pas la lumière tout le temps, c'est pas l'obscurité tout le temps, mais également dans les énergies du monde. Il y a des énergies d'amour et des énergies obscures. Hein, donc amour et lumière vont bien ensemble. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de notre monde, c'est un monde d'opposés et de contrastes, et en vérité, le contraste nous aide à évoluer, parce que nous faisons des choix dans ces contrastes. Comme nous avons le libre arbitre, ben, on va pouvoir choisir, parfois par ignorance, on va choisir la peur, on va être agressif, on va voir que finalement, ça nous empoisonne nous-mêmes, hein, en plus d'empoisonner les autres, s'ils se laissent empoisonner. Et donc, on va être tenté d'évoluer en disant ce choix-là, finalement, il ne m'aide pas à me sentir bien. Et donc, dans le monde de contraste, on va choisir l'autre opposé. Et puis, petit à petit, avec chaque expérience, on va tirer des leçons et on va s'améliorer, et je dirais de vie en vie, parce que ça se passe sur des vies et des vies. Mais ça peut être en une seule vie aussi. Il paraît que celle-ci, c'est la dernière de la dualité pour tous ceux qui se sont donné rendez-vous pour le grand bouquet final. Et l'autre niveau, c'est le niveau de l'unité, c'est-à-dire c'est notre source et aussi c'est notre point de retour. Mais on n'en a pas conscience, parce que la non-dualité dit qu'on est venu dans ce monde en voilant la partie pur amour qu'on est, parce que si on l'avait pas voilé, on serait resté une microseconde, on serait reparti, parce que ça ne serait pas été du tout intéressant de tenter l'expérience. Donc on voile la partie divine, la partie amour pur, et on apprend dans ce monde de dualité, on apprend des choses grâce à la dualité. Donc la dualité sert à quelque chose, c'est pas juste un monde de souffrance, mais ça inclut des expériences où on peut choisir, tout est permis. Donc on peut choisir beaucoup de choses. Et donc, oui, dans le monde de l'unité, on passe à l'autre niveau, le niveau absolu, alors que nous, on est dans un niveau relatif. Le relatif, c'est le noir par rapport au blanc. Hein. Le niveau absolu, il y a l'amour et rien d'autre. C'est l'amour inconditionnel. Cet amour-là, au niveau humain, on ne sait pas l'exprimer, parce qu'on n'a pas la capacité en tant qu'humain, et parce qu'on vit dans la dualité, à donner de l'amour vraiment sans aucune condition. Quelques humains peuvent tendre vers ça, peut-être y arriver, des maîtres comme Ama ou des gens qui sont réalisés, on peut dire. Mais la plupart des humains ont quand même un ego qui pose des conditions. On ne peut pas vivre dans un corps humain sans ego. Même un maître spirituel a un ego. Même quelqu'un d'éveillé peut replonger dans l'ego s'il n'entretient pas, parce que c'est jamais acquis. Donc, l'amour sans opposé, c'est l'amour qui ne pose aucune condition. Quoi que tu dises de moi, quoi que tu penses de moi, je t'accueille inconditionnellement et je ne te juge pas. C'est, on peut dire, l'amour que Dieu donne à ses fils ou à son fils. C'est un accueil total. Donc, toute expérience est permise. Je peux blasphémer Dieu, je peux ne pas croire en Dieu. Ça ne change pas l'amour de Dieu. Et nous, comme nous sommes divins à l'origine, nous portons l'étincelle divine, c'est-à-dire comme un fragment de divinité, de la divinité, mais qui contient le tout, alors nous avons cet amour inconditionnel qui, lorsque nous ascensionnerons, lorsque nous rendrons notre ego de plus en plus transparent jusqu'à terminer la dualité, alors nous retrouverons la conscience de l'amour inconditionnel. En effet, aussi, la joie peut être une joie pure, sans opposer dans cet état de non-dualité. La non-dualité, c'est l'unité parfaite, c'est-à-dire le bien absolu sans opposer. Le bien absolu, on peut dire tout ce qui existe, qui n'est pas relatif, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est l'univers, on peut employer plein de mots, c'est la source, mais ça ne fait pas référence à un monde duel qui, dans notre esprit, passe par l'ego, et puis il est dit que c'est un rêve, ce monde, c'est-à-dire que nos sens sont programmés pour nous faire voir, entendre, toucher, goûter, tout ce qu'on croit vouloir expérimenter. Et en vérité, ça ne se passe pas réellement. Mais comme c'est très très puissant, nous on a vraiment l'impression que ça se passe. Voilà, pour beaucoup de gens, ce monde-là, et le fait que nous vivons un rêve, c'est très mystérieux, c'est très... Et en même temps, la comparaison est très simple. Les rêves nocturnes peuvent sembler très très réels. Nous pouvons, si nous vivons des situations très angoissantes, transpirer dans notre lit, bouger, hurler, si on pense qu'on va tomber dans un précipice, on a vraiment l'impression de le vivre, jusqu'au moment où on ouvre les yeux. Ce monde-là, c'est de la même nature. Et ouvrir les yeux, dans ce monde, ça veut dire s'éveiller, et pas se réveiller. S'éveiller à quoi ? Eh bien, au monde absolu. Et ce monde-là, il est apparemment fabriqué par notre volonté divine en tant qu'esprit. Nous nous sommes programmés pour voir un monde de dualité. Alors, c'est pas facile à accepter pour la plupart des gens, mais en vérité, on a fait l'expérience d'un poisson qui se demande qu'est-ce que c'est que l'eau, mais comme à l'intérieur de l'eau, il ne peut pas savoir qu'il est mouillé, parce que ça n'existe pas pour lui, le sentiment d'être mouillé. Donc le poisson s'est sorti de l'eau, et là il a commencé d'abord à se sentir sec, et puis il a commencé aussi à s'asphyxier, et donc il a une seule hâte, c'est de replonger dans l'océan. C'est un peu nous, notre situation. On est sorti de l'amour, volontairement, pour mieux avoir une perspective sur l'amour, pour pas être plongé dedans, pour savoir ce que c'est qu'être mouillé, en vérité. C'est-à-dire, voir l'amour devant nous comme une expérience et pas plongé dedans. Et donc, on s'est extrait, et puis, on a fait l'expérience de cette dualité, et puis maintenant, on a cet appel à retourner dans l'océan, dans la béatitude, dans la félicité, et à sortir de ce monde de contraste. Donc la joie aussi, c'est une qualité divine qui n'a pas d'opposé, la joie pure. Dans le monde de dualité, il y a joie, il y a tristesse, il y a des choses qui s'opposent. Voilà pour dualité, non-dualité. Ça répond à la question ? Voilà, alors... Le monde de l'unité, le monde de la non-dualité, c'est important d'y aller progressivement parce que si je crois que la terre est ferme sous mes pieds et que tout d'un coup on me dit ça n'existe pas, je vais perdre pied. Mon système psychologique peut s'écrouler. Donc c'est important de se dire que ce monde-là, il existe, mais dans notre esprit, c'est-à-dire c'est notre vérité, ce monde-là. C'est notre vérité relative, et il y a une autre vérité qui est absolue. Donc on a fabriqué cette vérité relative pour faire des expériences, et elle a tous les aspects de la réalité. Mais c'est une réalité que chacun vit à son échelle. Chacun, avec sa perception, et fabrique ses expériences. Et on ne peut pas avoir des expériences si on n'a pas un théâtre d'expérience. Et en vérité, on est réellement dans une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens en face pour les aimer ou se fâcher avec. Donc, on a besoin. Mais en vérité, on est tous le même être, subdivisé en plein de milliards d'êtres qui semblent avoir des visages différents, mais il n'y a que moi, et moi, et moi, et moi, avec des aspects différents. Et bien sûr, c'est notre esprit divin qui est le metteur en scène pour arriver à ce que tout ça soit crédible. Si ce n'était pas crédible, ça n'aurait pas duré une seule seconde. Hein, donc, tous ces aspects-là sont éminemment crédibles pour nous. Alors, ce qui peut nous donner un aperçu du monde de l'unité, c'est quand on médite, et que, comme disait Florian tout à l'heure, le corps semble s'effacer. Lorsqu'on médite suffisamment longtemps, il y a un moment donné où il n'y a plus la perception du corps. Le temps aussi peut s'effacer, parce que le temps est aussi notre création. Le temps, l'espace, la matière vont ensemble, ça veut dire que tout ça corrobore au même théâtre d'expérience. S'il n'y avait pas de temps, on ne pourrait pas faire des expériences qui sont séparées par des intervalles de temps et les comparer entre elles, parce que tout se passerait au même moment. Et en vérité, dans l'unité, tout se passe au même moment. Il n'y a pas demain ou hier, il y a l'éternel maintenant. C'est une suite de maintenant, mais il n'y a pas de... Le maintenant d'avant n'existe pas, le maintenant d'après n'existe pas, avant qu'il soit vécu. Voilà, c'est un référentiel complètement différent. C'est là d'où nous venons, mais c'est ce que nous avons oublié soigneusement. Et donc nous avons les capacités de voiler notre esprit. C'est pour ça que l'Apocalypse, dont on nous parle beaucoup, c'est la levée du voile. Le terme réel, la traduction, c'est la levée du voile. Donc on se dirige vers la sortie de ça en multipliant les occasions d'aimer véritablement et puis en surveillant bien notre ego comme un molosse qui est en laisse et qui est prêt à attaquer à la moindre... qui nous défend à la moindre attaque, il est prêt à surgir pour agresser l'opposant, la personne qui est en face, répondre avec agressivité quand on parle avec agressivité, alors que je pourrais soit ne pas répondre du tout, soit me dire, pour me parler comme ça, cet homme-là ou cette femme-là doit être vraiment pas bien dans sa peau. Parce que s'il était bien dans sa peau, il me dirait des choses gentilles. Chaque personne équilibrée, chaque personne qui est en paix, tranquille, ou qui a médité, n'a aucune envie d'agresser qui que ce soit. Vous avez vu dans quel état on a fini la méditation, on n'est pas en train de dire « c'est moi qui a raison, toi tais-toi ». Chacun peut collaborer au dialogue, dans l'entente, dans l'écoute, dans l'amour, hein, ce qui sous-tend PFC, ce qui sous-tend notre être véritable, c'est l'amour. Hein. Et quand on est dans ces groupes-là, c'est une manière de donner une part plus importante à ce qui est mu par l'amour dans nos vies et une part moins importante à ce qui est mu par la peur. Il en restera toujours un peu, mais ça deviendra de plus en plus transparent. Hein. Moi, par exemple, avant, je pouvais me mettre en colère. Aujourd'hui, quand je sens, quand j'ai assez de distance pour sentir que la colère arrive, que ça commence à fourmiller à l'intérieur, que j'ai envie de crier ou de me révolter, c'est parce que je sens ces prémices-là que je peux me dire, si je vois ça arriver, c'est pas moi, sinon je le verrai pas. Et en vérité, quand je suis complètement confondu avec mon identité, ma personnalité, alors je crois que la colère est en moi et que c'est moi qui suis en colère. C'est vraiment moi. Alors que quand je suis témoin, que ça se rapproche de moi, c'est comme une émotion qui m'envahit, mais que je peux arrêter si j'ai assez de maîtrise, je dirais. Alors, je dis, ah tiens, il y a un nuage gris dans le ciel bleu, là, qui approche, et il y a des éclairs qui se préparent à, qu'est-ce que je fais? Hein, parce que je suis témoin, je peux dire, qu'est-ce que je fais? Et je dis, je ne vais pas mettre en colère tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Hein, je laisse le nuage, je souffle sur le nuage, pour l'éloigner un peu. En vérité, je peux faire ça. Pourquoi ? Parce que je suis assez à distance pour le voir s'approcher. Et c'est moi qui l'autorise à s'approcher ou pas. Et donc, au lieu d'agresser, je vais dire stop et je vais dire, bon, j'ai le choix maintenant, soit j'agresse, soit je me tais, ou soit je réfléchis, ou les deux. Et donc, quand je réfléchis, je me dis, à quoi ça sert ? Moi-même, je vais me faire du mal, parce que chaque fois que je pique une colère, il y a 50 000 neurones qui grillent dans mon cerveau, qui sont définitivement hors d'usage. Hein. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais voilà. À chaque colère, j'en perds un peu. Et à chaque colère, il y a des hormones empoisonnantes dans mon corps, l'adrénaline, des choses qui augmentent mon rythme cardiaque, qui me font me sentir mal aussi. Les émotions, c'est toujours les hormones qui les déclenchent. Et c'est en vérité, je m'instille à moi-même du poison. Je crois que je vais empoisonner l'autre, et au final, c'est d'abord moi que j'empoisonne. Donc, est-ce que je veux m'empoisonner ? Hein ? C'est comme ça que j'ai arrêté le café. J'adorais le café, mais la dernière tasse de café que j'ai bu a fait battre mon cœur à tel point que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me dis, Avi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vois que tu t'empoisonnes ? Je me suis répondu, oui, je le vois. Et j'adorais le café, j'aime toujours beaucoup l'odeur du café, mais j'ai décidé d'arrêter de m'empoisonner. Et pour la même raison, les colères, je les tiens à distance. Bon, je ne suis pas infaillible, mais cette distance-là, elle est importante si on veut rendre l'ego transparent. Parce que pour rendre l'ego transparent, il faut qu'il soit à distance. Si je crois que je suis l'ego, ben jamais je pourrais le rendre transparent. Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a la joie sans opposé. Elle ne part pas d'un contraste avec une autre émotion. C'est la totalité de ce qui est ressenti à ce moment-là dans l'absolu. L'amour, c'est un amour absolu. Parce que si c'était un amour en contraste avec la haine, alors il y aurait des conditions. Hein, c'est dans la haine qu'il y a des conditions. Si je mets une condition, c'est d'une certaine manière, je mets un peu de haine dans mon amour. Je dilue. Et donc, ce n'est pas de l'amour pur. Si je dis à ma partenaire de couple, je t'aime si tu ne vas pas voir ailleurs, dès que j'ai mis le « si », je lui ai mis une dose de haine. Parce que si tu vas voir ailleurs, je vais te haïr. En vérité, ça veut dire ça. Dès qu'il y a une condition, ça veut dire « j'aime plus ». Et donc, je t'aime si tu es dans le périmètre du possible pour moi, et si tu es hors du périmètre du possible pour moi, c'est fini. Donc c'est pas de l'amour, c'est le périmètre, c'est une prison. Ce périmètre-là, c'est la longueur de la corde, en fait. Hein, la liberté, c'est la longueur de la corde. Et s'il n'y a pas de corde, c'est inconditionnel. Hein, c'est facile, hein, en vérité. Mais c'est facile à comprendre, mais c'est très difficile à appliquer, de ne pas poser de conditions. Parce que notre esprit, surtout depuis 25 000 ans où on est très conditionné, on est hyper enclin à juger. Je lis un article, sur 20 lignes, je peux avoir 5 ou 6 jugements en disant ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ça j'y crois pas. Voilà, et on est conditionné pour cataloguer quelqu'un dès qu'on le voit. Mais en un dixième de seconde, on sait déjà toutes les cases qu'il remplit et toutes les cases qu'il ne remplit pas. Et après, on va lui parler ou pas, on va avoir une image mentale de qui il est, mais juste en même pas une seconde. Et donc, on a une machine à juger dans le cerveau. Et c'est notre personnalité, hein, c'est ce qui fait qu'on a une identité différente les uns des autres, mais ça s'appelle aussi l'ego. Quelqu'un disait, nous sommes tous égaux, mais certains plus que d'autres. Et là, ça pourrait s'écrire E-G-O, nous sommes tous égaux. Donc voilà, si on peut se sentir égal à qui que ce soit, même au clochard qui pue l'urine et l'alcool dans la rue, dans le métro, ou au saint le plus vénéré de la planète, Alors, c'est plus proche de l'amour inconditionnel. Disons qu'il y a les apparences et il y a derrière les coulisses notre vraie nature. Et l'amour inconditionnel, c'est reconnaître la vraie nature derrière les apparences, derrière le masque de l'ego. Voilà, je fais tourner le micro. Si vous avez rien à dire, vous passez à la personne suivante. Comme ça, s'il y a des choses à dire.
Moi, je voudrais dire que lorsqu'on. Enfin, l'expérience de l'amour inconditionnel enrichit et vous nourrit. Alors que si on va. On se retrouve dans la colère ou dans la peur, on sent que l'énergie fuit, qu'on s'épuise, qu'on se. On n'est pas bien. Et. C'est aussi un déclic qui permet de se rendre compte que justement l'ego est là, vous pompe, vous. C'est un consommateur d'énergie, alors qu'au contraire, l'amour vous enrichit et vous recharge quelque
oui,
part.
Oui.
Voilà.
Alors, c'est tout à fait ça. La peur blesse l'âme, quoi. Par la peur, on se retrouve vulnérable, comme si tout autour de nous était une menace, quoi. Alors qu'en fait, la menace, c'est l'humain, c'est un peu comme un miroir avec l'ego. Ce que l'on n'aime pas dans la dualité chez l'autre, ça peut venir aussi d'une forme de le défaut qu'on n'aime pas chez l'autre. C'est parce que justement on ne veut pas se l'avouer à nous-mêmes, ce défaut. Donc c'est toujours miroir. Et une personne que par exemple qu'on aime beaucoup, elle a des qualités. Qu'on ne se reconnaît pas en nous-mêmes, mais qu'on a la capacité d'avoir et qu'on recherche. Et l'ego, en fait, on attire ce qu'on veut avec l'amour, les qualités, par exemple, et les défauts, en fait, on les expulse chez l'autre, qui est un miroir, en fait. Je le vois comme ça. Et donc, c'est vrai qu'avec l'ego aussi, on se retrouve dans la dualité, on se retrouve dans le triangle. Victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est victime, on a marre d'être victime, donc on se met à devenir bourreau, une sorte de vengeance. Et puis après, on s'en veut d'avoir fait ce mal, donc on va essayer de devenir sauveur. Et sauveur, pas dans le sens, comme on peut l'entendre, mais un sauveur qui va vraiment sauver coûte que coûte. Même si la personne n'a pas envie, c'est pas grave, je te sauve. Je te sauve quand même. Alors que peut-être que la personne en face va pas, c'est pas ce qu'elle recherche, quoi. Et donc après elle va voir que c'est pas ça qu'elle recherche, donc elle va se dire encore oh mince, je suis victime. Et voilà. Et tant qu'on est dans ce triangle, on tourne. Et ça peut durer longtemps comme ça. Et donc en fait on est. Après voilà, il faut arriver à trouver le truc pour trouver de sortir de ce. De ce triangle, qui ont aussi des pièges, on va dire, de l'ego. De toute façon, l'ego, c'est. On est plongé dans cette densité très lourde, comme si on était dans de la boue, comme quand on fait de l'aquagym, en fait. Quand on fait de l'aquagym, c'est dur parce que l'eau est plus dense, pour faire les mouvements, c'est beaucoup plus difficile, il faut beaucoup plus de force. Mais une fois qu'on sort de l'eau, on est beaucoup plus fortifié, comme jamais. Donc c'est difficile quand on est dans l'eau, mais quand on en ressort, on est léger, comme tout. Et donc voilà, donc c'est très difficile la 3D, mais tant qu'on n'est pas sorti de l'eau, comme tu disais à vite tout à l'heure, on peut pas comprendre ce qu'on a vécu, quoi. Et après, oui, on peut. La 3D, c'est des leçons, c'est l'apprentissage par la leçon, le karma. Par exemple, quelqu'un, par exemple, dans les karmas, on sait, bon, avec plein de gens, on fait des études sur le karma. Par exemple, imaginons un violeur. Ben, il viole parce que voilà, il est complètement coupé, donc il fait avec ce qu'il a, quoi. Et alors la prochaine vie ou une vie plus tard, le karma qui sera sur lui, c'est qui peut être une leçon pour lui, c'est de s'incarner en prostituée. Parce que comme il est tellement coupé, pour retrouver, comprendre là où il a été coupé, il va devoir éprouver ce qu'ont vécu les victimes. Et il n'y a que comme ça, en fait, par exemple, c'est les techniques, comme disait Cobra, par exemple avec les archontes, certains archontes sont tellement coupés, quoi, sont tellement éloignés de la source que avant qu'ils remontent la pente, ça prendra des millénaires et des millions d'années, quoi, dans leur schéma de vie, de réincarnation et de toujours perpétrer par l'expérience de ce qu'ils font, ils ne pourront pas se libérer. Donc en fait, on les nettoie, on fait, comment on appelle ça, un formatage, formatage lumineux. C'est-à-dire que les êtres, bon, on redémarre à zéro, ils perdent toute leur mémoire et tout ça, et ils redémarrent à zéro, quelque part. Et là, ils redémarrent une aventure. L'aventure de la vie. Et c'est vrai que la 3D, c'est... Moi, je le vois comme ça. Mais par contre, une fois dans la 3D, une fois qu'on a vu la leçon qui était derrière, on a vu ce qui ne fonctionnait pas, il y a une forme de libération énorme. C'est un moment où on comprend tout est clair d'un seul coup, et il y a une forme de libération émotionnelle et tout ça, et ça nous permet de nous libérer, de se pardonner, et de tourner la page. Et voilà, c'est comme ça. C'est un apprentissage qui prend des vies. Et parce qu'aussi, à ce qui paraît, que si on a un état, un développement spirituel assez bas, on est assez bas dans les vibrations de manipulation, domination, destruction. Si d'un seul coup, en cette entité, on nettoie tout ça, on lui apporte exactement, on débouche tous les nuages qu'il a en lui, son âme pourrait mourir. Enfin, pas mourir, mais se fragmenter, parce que elle n'est pas capable de peut pas absorber une lumière très vite. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est l'éternité devant nous. Hein. Et c'est pour ça que les choses prennent du temps. Et là, avec l'ascension, c'est une forme de libération. Alors, on a des choses en nous, on a les implants qui nous compriment. C'est ces choses-là qui vont se débloquer. Et là, on aura un apport d'énergie, on comprendra. Oui, d'accord, on était vraiment sous atmosphère étouffante. Et voilà. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Si quelqu'un peut... Une petite idée ou... ressenti. Tu veux dire ?
Moi, ce que je trouverais assez commode, c'est si on pouvait disposer d'une cartographie de toutes les émotions qui existent et comment, par quel lien on peut les relier les unes aux autres de façon non arbitraire, mais de façon qui soit constructive. Alors si en plus dedans, il y a les émotions qui ont des opposés et celles qui n'ont pas d'opposés et tout ça. Je sais pas si ça a été fait, enfin je sais qu'il y a écrit certaines cartes comme ça, mais je sais pas en quelle mesure elles sont légitimes ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Voilà, je lance la question. Je lance l'idée.
Oui, et puis pour clore ce chapitre sur les émotions, c'est à nouveau, c'est facile de voir les émotions qui sont limitantes, hein, qui nous contracte. Par exemple, quand j'ai peur d'un animal sauvage, je me contracte. Hein. Si je suis impatient, je vois bien que si je me crispe. Voilà. Et puis il y a des émotions qui nous dilatent, hein, qui nous étendent, qui nous font nous sentir plus vastes. Et donc, passer en revue chacun des états, émotions qu'on connaît, on ne parle pas des émotions sans opposé, il y en a très peu en fait. Hein. Amour, joie, gratitude, des choses, félicité, on ne peut pas en mettre des tonnes parce que, ça, en vérité, c'est différents mots pour amour. Hein. Mais dans notre monde, il y a une infinité d'émotions. Tout état émotionnel, pratiquement, peut se résumer à expansion ou contraction. Et déjà, ça fait deux familles importantes. Voilà, je vais quand même, avant la fin de la réunion, parler de PFC. On a parlé de non-dualité, ce qui est important. Parce que la finalité, c'est quand même d'évoluer vers un monde avec plus d'influence de l'amour jusqu'à disparition de la dualité au bout d'un certain temps. Il est dit au passage que notre rôle en tant qu'humain sur Terre, c'est d'apprendre à vivre dans ce monde de dualité, d'en maîtriser les rouages, en s'élevant à chaque fois en conscience de plus en plus, pour ensuite aller être au service d'autres mondes qui débutent dans la dualité. Et nous serons les guides de ces mondes-là, une fois que nous en serons sortis. Donc ça, nous sommes dans une école. Hein. C'est l'école de la dualité et la Terre. Beaucoup d'êtres nous regardent avec admiration, parce qu'on est passé d'un monde infini, très agréable à vivre, un monde très limité, très fini, avec de la souffrance, de la douleur, et on est tous volontaires, on a plongé volontairement pour accumuler ces expériences-là, pour ensuite aller servir d'autres. Donc, même si nous nous considérons sans valeur ou nous nous jugeons, beaucoup d'êtres extérieurs à la planète nous regardent avec une infinie admiration. Et il paraît que la liste d'attente est très longue pour s'incarner sur Terre, tellement il y a de demandes. Parce que c'est une évolution à toute vitesse sur Terre. Une évolution avec une accélération sans pareil dans les mondes sans dualité. Alors l'évolution est très lente. Et sur Terre, c'est palpitant. Parce que c'est très, il y a beaucoup de défis. Hein. Il n'y a pas de défis ailleurs puisqu'il n'y a pas de dualité. Voilà pour le sujet qui nous rassemble, revenir à notre source et puis être heureux, c'était ce dont on a parlé. Alors, préparez-vous au changement, c'est un mouvement qui rassemble les personnes volontaires pour souhaiter visualiser un monde de paix, se réunir chaque dimanche pour l'inviter à se manifester avec la force de nos intentions. Visualiser qu'il n'y a plus de force de manipulation dans le monde et que nous pouvons être libres et puis nous développer harmonieusement, développer les arts, les sciences, nos compétences sans nous limiter et puis sortir de cette lourdeur de la troisième dimension pour aller vers un monde avec plus d'amour. Donc le point charnière serait l'événement, une situation qui arriverait, on ne sait pas quand le monde serait disposé à ce que ça prenne place, sans beaucoup de pertes humaines, et qui serait un point de bascule vers un monde sans manipulation et sans domination, à l'aide de forces bienveillantes, positives, intraterrestres, terrestres et extraterrestres. Donc, ceux qui veulent avoir des informations sur l'événement, il y a un document en français qui se trouve sur le site Être Plus. Pour avoir la référence de ce document, simplement, dans l'annonce qui contient cet enregistrement audio, vous suivez le lien sur Être Plus et sur les documents. Je mettrai ces liens systématiquement sur chaque enregistrement. Donc, pour ceux qui sont volontaires pour participer à l'élaboration d'une nouvelle conscience sur Terre, d'un nouveau niveau vibratoire sur Terre, alors nous nous réunissons, nous méditons, nous formons des groupes de soutien et aussi nous nous préparons à l'événement qui pourrait s'accompagner d'un petit peu de déstabilisation, surtout au niveau des masses qui ne sont pas préparées, qui ne sont pas informées. Donc les groupes de soutien sont là pour soutenir psychologiquement, aider. Et puis en tant que groupe de soutien, nous on se prépare à une période de transition où peut-être des commerces seraient fermés, les banques seraient fermées. Donc on fait des provisions, on garde un peu d'espèces, on remplit son réservoir de carburant, etc. pour pouvoir être opérationnel au moment où ça se passe, pour aider pleinement et ne pas nous-mêmes être perturbés ou le moins possible perturbés par ces changements-là. Dans la même mesure, il y a un document qui est destiné aux dirigeants locaux, qu'ils soient maires, élus, sénateurs, directeurs de supermarchés, de pharmacies, tous ceux qui ont un rôle de distribuer, de fournir un service. Alors, donc, il y a un document qui leur explique que les changements sont positifs. Et notre charge, c'est de remettre ce document le jour de l'événement, mais ça peut aussi se remettre avant. J'ai l'écho déjà de personnes qui l'ont déjà envoyé par email aujourd'hui pour décrire que ce qui se passe est positif et que ça ne devrait pas entraîner la fermeture de la mairie ou du supermarché ou de l'alimentation en eau, qu'il n'y a pas à paniquer, que tout ça c'est temporaire et que ça va se résorber assez vite. Voilà, et puis il y a aussi un petit document qui est présentation sommaire rapide pour débuter les personnes non informées, pour avoir une idée très globale, très rapide aussi, de préparer vos changements, et ça s'appelle flyer. Flyer, ça veut dire plaquette, hein, un petit recto verso très court. Pour en quelques phrases décrire ce que c'est. Donc c'est quelque chose qu'on distribue, qu'on pose dans les endroits où c'est susceptible d'être lu, etc. Et puis pour aller plus profondément, il y a un autre document qui s'appelle « Vue d'ensemble » et qui permet d'avoir bien des aspects, parce qu'ils sont nombreux, hein, de « Prepare for Change », en particulier à quoi on peut s'attendre après l'événement, c'est-à-dire l'essor des nouvelles technologies, l'essor de la médecine, l'essor du domaine artistique, l'essor de la finance, tout ça va avoir une nouvelle impulsion, et donc il y a des groupes spécialisés dans chacun des six domaines qui vont guider les gens cette expansion-là, cette nouvelle façon d'aborder ces domaines-là. Donc, dans nos groupes de soutien aussi, nous pouvons choisir un de ces six thèmes pour nous spécialiser et pour devenir des interlocuteurs. Quand il y a quelqu'un qui a une question sur la technologie, alors il y a un référent dans les groupes qui est plus au courant sur la technologie que sur le reste. Donc avant l'événement, on se prépare, pendant l'événement, on soutient, après l'événement, on accompagne ce qui se passe, et puis il est prévu qu'il y ait des contacts avec les forces extraterrestres positives, des atterrissages, avec une partie choisie de la population dans un premier temps, et plus vaste dans un second. Il y aura une vidéo de 16 heures qui sera diffusée sur les médias principaux et parlera aussi de la réalité extraterrestre avec des choses plus évidentes. Voilà, s'il y a quelque chose à ajouter.
Oui, pour compléter, dans la dernière interview de Cobra, Cobra annonce cette échelle entre deux portails, en fait, où tout le changement doit arriver. C'est entre 1975, où il y a le début d'action du mouvement de la résistance, avec un portail qui a décidé qu'il fallait vraiment passer à la libération de la planète, dans cette échelle, et le portail se referme en 2025. Et donc, en 2025, tout doit avoir été mis en place. Donc, les technologies, donc bien entendu, l'événement, le changement financier, les nouvelles technologies, contacts, etc. Donc, ça peut. Moi, je trouve que c'est un temps raisonnable, 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler quand même. C'est quand même quelque chose qui. C'est passé de. Il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, donc oui, bon, alors c'est sûr, c'est une date, et des dates il y en a eu, mais après c'est vrai qu'au niveau Cobra, au niveau des dates sur les portails, ils ne se trompent pas trop quand même, parce que ça correspond toujours à des grands portails qui sont repris par d'autres. Donc voilà.
Voilà, ben nous arrivons à la fin de cette réunion. Alors, toi qui écoutes, merci de nous avoir écoutés. S'il y a des questions qui sont sans réponse pour toi, n'hésite pas, tu peux utiliser la réponse à l'enregistrement audio, les emails, le téléphone. Il y a aussi sur Être Plus un document dans les 17 que j'ai cités sur la rubrique PFC, qui donne la liste des groupes de méditation du dimanche soir. Donc il est nouveau ce document, je l'ai mis récemment, et ça donne les coordonnées, l'adresse postale, le téléphone, l'email pour la plupart des gens, et donc ça peut être un moyen aussi de poser une question à quelqu'un, puisqu'on a ces coordonnées, email ou... voilà. Pourquoi il y a ce document? Parce que certaines personnes n'ont pas Internet et ce document a vocation à être imprimé et à être donné dans les conférences, dans les choses où les gens sont sensibles, en disant, tiens, je suis à Paris, il y a 5 ou 6 groupes, à quel groupe je vais me rattacher? Et donc je vais appeler pour savoir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine méditation. Hein, parce que dans une certaine tranche d'âge, l'accès à Internet est plus, pour certaines personnes, est plus difficile ou pas, carrément inexistant. Donc, on n'oublie pas que le papier existe. Pour la même raison, on a un document collaboratif avec la liste de tous ceux qui sont d'accord pour écrire leur adresse, leur téléphone, leur email, pour qu'au moment de l'événement, si jamais il n'y a plus d'Internet, plus d'électricité pendant un moment, ben, on est une liste avec les adresses physiques, les téléphones, une liste papier. Donc c'est un document à imprimer régulièrement. Celui-là, par contre, il n'est pas public, hein, c'est interne au groupe PFC francophone. Voilà, on s'arrête là. Merci pour votre écoute, à ceux qui sont ici. Merci pour ton écoute, à toi qui fait partie de notre grand groupe disséminé en France et dans le monde. À tout bientôt pour une prochaine réunion.